Nous avons lu ensemble l'Évangile selon Luc. Et ces textes-là sont très importants aujourd'hui, de plus en plus importants. Car nous sommes vraiment dans une époque de terrorisme, d'attentat. Nous avons vu dimanche les grandes manifestations. Une époque de dérèglement sur la protection de la vie. L'euthanasie est bien en marche pour supprimer les souffrants et les vieillards. Dérèglement de la sexualité. Vous avez vu les violences au Nigeria et ailleurs. C'est quelque chose d'important que j'ai à vous dire ce matin parce que c'est toujours important. Parce que tout cela, pour moi, ce sont des signes très forts de la venue de Jésus. Et tous ces signes viennent de nous. Des règlements de la vie, des règlements de la sexualité, etc. Ça vient de nous. Il faut que les chrétiens soient lucides, qu'ils soient bien réveillés, qu'ils soient prêts. Paul disait aux chrétiens de Rome, « C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car le jour est proche, la nuit s'avance. » Il disait cela en parlant des temps difficiles. C'est un message pour l'Église de Rome il y a 2000 ans, c'est un message pour l'Église du IIe siècle qui subit des milliers de persécutions, c'est un message pour l'Église de la Réforme qui subit aussi des persécutions, c'est un message pour l'Église des Réveils où il y a une confusion pas possible également, c'est un message pour nous aujourd'hui. Amen. Tenez-vous prêts. Les événements que nous vivons et que nous vivrons doivent alerter les chrétiens, tenir debout, parce que le jour du Seigneur approche. Nous l'attendons. Bien sûr, il y aura des moqueurs. Si Marie avait dit « Le Messie vient bientôt », Marie, la mère de Jésus, il est là. On se serait moqué d'elle. Mais tu es folle. Et pourtant, c'était la vérité. Et la vérité pour nous aujourd'hui, c'est que le Seigneur va venir chercher l'Église. La Bible dit, le Seigneur Jésus apparaîtra une seconde fois à ceux qui l'attendent, pour leur salut. Il apparaîtra pour notre salut. Mais vous me direz, frère, je suis sauvé, baptisé. Le salut aujourd'hui, c'est une espérance qui est en nous, certaine, véritable, vraie. Mais le salut, nous le posséderons totalement, quand nous serons pris par le Seigneur dans la glorieuse résurrection. Amen. Il est là, et pas encore tout à fait. Parce que le salut, c'est que notre corps soit transformé, que toute notre existence soit transformée dans la résurrection. Amen. Donc nous attendons le Seigneur pour la finalité de notre salut. Amen. Dans ce texte que nous avons lu aujourd'hui, nous y voyons des signes importants. Trois, car Jésus ne veut pas nous surprendre et nous laisser dans l'ignorance alors qu'il nous allume des signaux. Il ne nous dit pas « vous pouvez dormir ». Regardez, les signaux s'allument. L'apôtre Paul dit « vous n'êtes pas dans la nuit, vous n'êtes pas aveugle, vos yeux ne sont pas crevés pour que ce jour vous surprenne ». Il vous nous surprendra, mais en fait, il ne faut pas qu'il vous surprenne. Que vous disiez « bah oui, c'est ce que j'attendais, amen ». Et le Seigneur nous a donné des signes qui sont secrets, qui sont scellés, comme dit le prophète Daniel, qui sont un peu fermés, jusque au jour où des événements nous les montreront. Vous allez me dire, mais oui, les signes, on les connaît depuis 2000 ans. Il y aura des guerres, des bruits de guerre, des tremblements de terre, des famines. Ben, Jésus va citer d'autres signes. Deux hommes signes. Noé, vous le connaissez ? Et Lot. Au temps de Noé, Jésus dit, les hommes mangeaient, buvaient. Ça vous arrive aussi de manger et de boire ? Se mariaient ? Alléluia pour les mariages. Marier leurs enfants, leurs petits-enfants, puis comme à l'époque on vivait vieux, leurs arrière-arrière-petits-enfants. C'est une bonne vie, ça, non? Où voyez-vous un mal? Le problème, c'est qu'ils aimaient cela plus que Dieu. Mais apparemment, c'est un bonheur paisible, où tout est respectable. L'abondance, on est quand même content d'avoir de quoi manger. Le mariage est respecté. On respecte la vie, il y a des naissances. On respecte la famille, c'est beau. Qu'y a-t-il de mal au temps de Noé ? Jésus nous ouvre la porte de l'histoire de Noé. Il nous dit, regardez-y de plus près. Allez voir dans la Genèse. Allez voir au-delà des apparences, avec les yeux de Dieu. Et regardez bien ce qui s'est passé au temps de Noé. Le Seigneur dit au temps de Noé, la fin de toute chair est décidée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Ils ont rempli la terre de violence et leurs pensées se tournent chaque jour uniquement vers le mal. Donc derrière leur petit festin, il y avait des règlements de compte qui n'étaient pas faciles. Donc je vois que la violence et la méchanceté provoquent la colère de Dieu. Et je vois que derrière les fêtes et toutes les festivités et le plaisir d'aujourd'hui, il peut se cacher de graves menaces. Et il y a une menace aujourd'hui. La violence a toujours existé. Vous vous rappelez d'Adam et Ève et de Caïn et Abel. Dans les psaumes, on voit David constamment balloté dans un flot de violence. On voit dans l'histoire d'Israël des frères qui se tuent, qui se maltraitent. L'homme est un loup pour l'homme. Les contes de nos enfants sont faits avec des histoires de violence. Le petit chaperon rouge. C'est pas de la violence, ça, par hasard ? La violence, ça vient de quoi ? D'une frustration. Je pense à Caïn. Une frustration, lui, il représente bien la violence. Frustration, une jalousie, un manque de reconnaissance envers cet homme, c'est ce qu'il pensait. Et puis il y a une violence aujourd'hui qui est mondialisée. La mondialisation de la violence. Mais la violence, la mondialisation, c'est aussi une violence. Regardez ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Jésus annonce que la violence et la méchanceté à travers l'histoire de Noé rempliront la terre. Bien sûr, il y a toujours eu des guerres. Mais dites-moi, la guerre, on ne la veut pas. Et tous les poilus de Verdun et de la Marne, il y a 100 ans, ils ne voulaient pas la guerre. Mais aujourd'hui, nous voyons des agressions. Les forces de l'ordre sont dépassées. Nous voyons des violences conjugales, des jeunes gens qui agressent des gens âgés. Nous voyons des petits qui sèment la terreur dans certains quartiers. Je me souviens un jour, dans une convention de pasteurs à Marseille, je voulais aller visiter un quartier le soir. Il y avait des petits gamins qui m'attendaient avec des poings sur les hanches. J'ai fait demi-tour. Impossible de passer. Il y a une montée de la violence, une insécurité. Il y a quelques années, j'étais en Suède et je voyais des bicyclettes qui restaient là sans protection toute la journée, toute la nuit. Il n'y avait pas une qui partait. Tout était tranquille et maintenant, ça a changé partout. Les enfants feront mourir leurs parents, a dit Jésus. Mais dans ces calamités de violence, Dieu agit continuellement en nous. Amen. Il agit dans le monde. Il fait toutes choses nouvelles par la présence de ses enfants qui sont des flambeaux qui brillent dans le monde. Amen. Dieu n'abandonne pas notre histoire. Dieu n'abandonne pas l'Église. Dieu n'abandonne pas le monde. Amen. Je crois que le déluge aurait pu être évité. Je crois que Dieu est capable de changer d'avis. Peut-être pas nous parfois, mais Dieu oui. Et si les habitants de la terre, à l'écoute de la prédication de Noé, avaient dit « Stop mes amis, on revient à Dieu », je crois que l'histoire aurait été différente. Que le Seigneur nous donne un esprit d'amour, un esprit de maîtrise de soi, un esprit de sagesse pour ne pas nous engager dans une méchanceté que nous avions peut-être hier, de ne jamais nous y engager à nouveau. L'apôtre Pierre nous dit « Notre condition serait pire que la première. » La méchanceté, c'est une spirale satanique. On n'est pas maître de soi dans la méchanceté. La violence est une spirale satanique. Que Dieu nous garde. Je voyais dans l'Apocalypse quelle violence derrière ces cargaisons. Apocalypse 18, ces cargaisons d'or. L'or, ça ne tombe pas du ciel comme ça. Il y a des gens qui meurent à cause de l'or. Des cargaisons de bois précieux, des cargaisons de parfums précieux, des cargaisons de chevaux, de chars, de corps d'hommes, d'âmes d'hommes. Tout ça nous montre que la violence va s'aggraver dans l'histoire. Et puis il y a Lot. Qu'est-ce que vous voulez reprocher à Lot ? Enfin, au temps de Lot, on mange encore, on boit, évidemment. Et puis on plante et on bâtit, on achète, on vend, on travaille. La reprise, l'activité. Personne au chômage, c'est pas beau. Une ville très prospère auprès de la mer morte. Mais derrière cette prospérité, il y a une sexualité en désordre qui s'affiche dans les rues et qui tourmente Lot, qui est un homme qui croyait, qui savait qui était Dieu. Et il est tourmenté par tout ce qu'il entend et tout ce qu'il voit. Même les enfants sont mêlés à ce débordement de sexualité. Sans respect pour Dieu, les enfants eux-mêmes, sans respect pour Dieu, sans respect pour les anges qui viennent chercher Lot et sa famille. Ils n'ont même pas de respect pour les anges. Aujourd'hui, le cinéma, la télévision, Internet nous encouragent au désordre sexuel. Et si vous n'êtes pas dans cette ligne-là, vous êtes très critiqué, très mal vu. Si vous ne péchez pas, vous n'êtes pas bien vu par la société, une certaine société. Ceux qui s'opposent à ces pratiques sont malmenés. Regardez les anges qui étaient chez Lot, qui venaient chercher la famille. Toute la ville était autour de la maison de Lot et tout le monde pressait parce que qu'est-ce qu'ils voulaient ? Je vais vous le dire, mais ça va peut-être vous choquer. Ils voulaient faire un viol collectif sur les anges. Pas beau, c'est pas extraordinaire ça, c'est pas de la folie, un viol collectif sur les anges ont étendu leurs mains et puis toute cette population s'est retrouvée dans l'aveuglement, il y avait même les petits, il y avait les enfants, il y avait les vieillards, il y avait tout le monde, une hystérie collective parce que les anges représentaient une autre façon, une pureté, une vie autre. Jésus a dit il en sera de même quand le Fils de l'homme reviendra. Nous retrouverons ces deux choses. Grande violence et une sexualité absolument effrayante, contre nature. Je vois dans l'Apocalypse, il est dit que les peuples de la terre, les rois des nations, boiront le vin de la débauche. Il y aura une débauche généralisée. Elles boiront le vin de la débauche. Ainsi, la colère de Dieu peut être attendue sur ces violences et ces vices sexuels. Ces deux phénomènes se produisent aujourd'hui, n'est-ce pas ? Est-ce que j'ai raison ? Est-ce que j'ai raison ? Aidés par un chômage extraordinaire, aidés parce que des familles sont déstructurées. Ce phénomène aujourd'hui est là, il faut que l'Église le sache, en prenne conscience. Des familles où il n'y a plus de père, des familles où il n'y a pas d'autorité, des familles où les parents ont démissionné. L'autorité autrefois était liée au travail, était liée à la vie morale, était liée à la foi du père, à la foi de la mère. Quand on voyait le père travailler, prier le Seigneur, aller à l'église, il y avait une autorité. Pas besoin de taper du poing sur la table. Et aujourd'hui, les enfants sont dans une bulle de vidéo, désorientés, désocialisés, sans activité. Ces deux phénomènes vont s'amplifier, violence et sexualité. Ils vont s'amplifier de jour en jour. Et c'est un phénomène irréversible. Les tours jumelles de New York qui se sont écroulées, ce jour-là, beaucoup ont dit « le monde a changé ». Parce que sur la terre, pas un endroit ne sera épargné. Même là-bas, ces tours protégées de la haute finance mondiale n'ont pas été épargnées. Nos petits villages, nos maisons, notre chambre, notre ville ne sera pas épargnée. La menace plane sur nous parce que le péché va agir de plus en plus. Et le Seigneur aussi. La Bible, Jésus disait, la colère de Dieu demeure. Mais grâce à Jésus-Christ, nous prêchons un message de réconciliation et de salut. Amen. Il faut se préparer à rencontrer le Seigneur. Qui est à la porte ? Le juge est à la porte, disait l'épître de Jacques. S'il le faut, il faut aller au désert. Il faut un petit peu se retirer, il faut un petit peu fermer les volets et les portes. Il faut aller au désert. Au IIIe siècle, quand les chrétiens ont vu le désordre mondial, généralisé, affolant, certains sont partis dans le désert. Ils disaient la vie est impossible. Et je crois qu'on revit ces choses-là. La chute de l'Empire romain, c'est un peu la représentation de ce que nous vivons aujourd'hui. Il faut se préparer. Il faut retenir ce que nous avons afin de ne pas perdre notre couronne. Amen. Retenir bien que nous sommes justifiés par le Seigneur. Il a déclaré, et personne ne pourra le contredire, vous êtes mes enfants, juste, que je vois à moi, pour l'éternité. Amen. Il faut serrer ces vérités. Et puis, un troisième signe qui n'est pas, on ne l'a pas lu directement, mais c'est la suite. C'est l'homme du péché. Il faut en parler. Vous allez me reprocher dans l'éternité de ne pas vous avoir dit la vérité, de vous avoir endormi avec un « tout le monde est beau ». La Bible dit, avant tout cela, il faut qu'on ait vu paraître. Le mot « paraître » dans la langue du Nouveau Testament, ça veut dire comme une apparition. Qu'on ait vu paraître l'homme du péché, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qui s'appelle Dieu et qui ira s'asseoir sur le trône de Dieu, le temple, se proclamant lui-même Dieu. Ça fait peur, hein ? Je crois qu'il faut rester près du Seigneur pour le reconnaître quand il arrivera. Parce que si l'apôtre en parle, c'est que l'Église le connaîtra pendant un temps, un petit temps, mais qui sera quand même assez long pour faire du ravage. Devant les méchancetés qui ne cessent de grandir, voilà comment je vois l'histoire, en une minute. Devant tout le terrorisme qui va être planétaire, je pense que les peuples de la Terre ne pourront pas le supporter. Je pense qu'il pourrait y avoir des manifestations mondiales, des manifestations dans tous les pays, et des prises de position politiques importantes, parce qu'on ne saura que faire devant la violence, devant le terrorisme. Et on soupirera après un homme qui arrête tout ça, qui nous donne de pouvoir manger, boire, et puis de marier nos enfants. Vous comprenez ? On soupirera après cet homme qui rétablisse l'ordre. Cet homme, l'apôtre Jean l'appelle la bête, l'antichrist, parce qu'il retirera le monde de la connaissance de Jésus-Christ. Il se fera appeler lui-même Dieu. Et des rois qui n'existent pas encore peut-être, des rois animés d'un pouvoir satanique le mettront au pouvoir. Et là, le monde chantera paix sur terre. Parfait. Mais on lit entre les lignes, vous voulez bien ? Paix sur terre contre Dieu, sans Dieu. Et la Bible dit, une ruine soudaine surprendra les habitants de la terre. Car sans moi, dit Jésus, vous ne pouvez rien faire. C'est lui qui nous donne la paix en toutes circonstances. Ce troisième signe, il n'est pas encore là, mais je ne sais pas. Il est proche de la venue de Jésus. La Bible dit que le dragon, on sait ce que c'est que le dragon. Enfin, on ne veut pas trop le connaître, mais on sait ce que c'est. Il donnera à cet homme toute sa puissance, tout son règne, son trône, une très grande autorité. J'en ai froid dans le dos. Et le plus, c'est qu'il ressemblera à un agneau. C'est ce que c'est qu'un agneau. Souvent, on chante l'agneau de Dieu. Il ressemblera à un agneau et il troublera, il séduira des croyants. Il fera la guerre aux croyants, aux juifs, aux chrétiens. Jésus disait, prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail et votre récompense. Le maître mot de Jésus dans cette affaire, c'est que personne ne vous trouble et ne vous séduise. Pendant quelques minutes, je vais maintenant ouvrir un quatrième petit volet. Et notre conduite pendant ce temps-là. Que fait l'Église ? Comment faire ? Je pense qu'on va tous aller sur la Lune. Jésus dit, revenons au texte, c'est le texte qui nous commande, ce n'est pas mes idées. Priez en tout temps, non pas pour changer l'histoire, non pas pour que finalement toutes ces choses que Dieu a dites n'existent pas. Priez en tout temps afin que vous ayez la force d'échapper et de paraître debout quand le Fils de l'homme paraîtra. Amen. Que dit la Bible ? Soyez patients. Ça va être difficile ça. C'est-à-dire une foi qui tient, qui tient, qui tient. Soyez patients jusqu'à l'avènement du Seigneur. Affermissez vos cœurs, c'est-à-dire que vos cœurs soient fermes, qu'ils ne pleurnichent pas, qu'ils ne bronchent pas pour un rien. Soyez fermes dans votre attachement à Jésus-Christ. Tout ça, c'est dans la Bible. Vous avez vu la patience de Noé ? 120 ans. Et la patience de Lot, qui tourmentait son âme tous les jours. Parce que tous les jours, il entendait la pornographie, il voyait la pornographie, et tous les jours, il voyait des scènes dans les rues, partout, et son âme était tourmentée. Frères et sœurs, je crois vraiment ce que Jésus a dit, et vous ? Et je crois que ce retour au temps de Noé, ce retour au temps de Lot aura des conséquences sur l'Église. Parce que le mal, il se contamine, il se propage. C'est le mystère du mal. Et Jésus disait, si on te frappe sur la joue, ben oui, on nous frappera. On vous persécutera, il y aura la haine du monde contre vous, mais même dans l'Église. Il y aura des conséquences dans l'Église. Pourquoi l'apôtre dit ne vous dévorez pas entre vous, de peur que vous ne soyez détruits les uns par les autres. L'ambiance sera tellement de méchanceté que ça s'infiltrera dans les mentalités des gens, dans l'Église. Nous serons détruits par cette force infernale si nous oublions la connaissance de Dieu. Mon peuple périt faute de connaissance. Prophète Osée. Oui, la violence rentrera dans les églises, puisque l'apôtre Paul, il dit à Timothée, certains seront rebelles, pas tous, mais rebelles à leurs parents. Il écrit aux chrétiens, il n'écrit pas aux gens du monde. Ils ne seront pas maîtres d'eux, ils n'auront pas la maîtrise d'eux-mêmes. Ils seront cruels, ils seront ennemis des gens de bien, ils seront emportés, ils seront violents. Et puis Jacques, quand il dit, mais il dit ça aux chrétiens, il ne dit pas ça aux gens de l'extérieur, il dit, vous avez vécu sur la terre au milieu des richesses, vous avez fait ce qui vous plaisait, Jacques chapitre 5, vous avez rassasié vos cœurs, vous avez condamné le juste, vous avez tué le juste qui ne vous a pas résisté. Ça dans l'Église, Seigneur, mais c'est déjà arrivé et ça arrivera encore. Donne-nous, Seigneur, de secourir nos frères avec des petits gestes d'amour. Je pense qu'aujourd'hui, il faut voir, non pas des grandes structures internationales, mais des petits gestes d'amour pour donner à manger à celui qui a faim, à boire à celui qui a soif, et de revêtir celui qui est nu. Et tout ça, c'est à Jésus que nous le faisons. Amen. Donc, nous sommes vraiment dans un temps de la grande colère de Satan. Et je pense qu'il nous faudra marcher d'une manière personnelle. On ne pourra pas marcher à votre place. On ne pourra pas espérer à votre place. Il faudra que vous ayez une marche personnelle avec Dieu chaque jour. Pas portée forcément par d'autres, mais seul. Comme Enoch. Vous connaissez Enoch ? Qui a marché avec Dieu dans un monde de violence. Il avait été marié, il avait des enfants. Et il a marché 300 ans avec Dieu. Voyant dans la foi probablement son départ vers Dieu, son enlèvement vers Dieu. Et Dieu le prit et ne fut plus trouvé. Enoch est parti près du Seigneur. Et je crois qu'Enoch, c'est nous. Dans ce temps de violence, on marche avec Dieu. Je ne sais pas si ses enfants ont suivi. C'est triste. Je ne sais pas si son épouse a suivi. Mais lui, il a marché avec Dieu et Dieu le prit. Amen. L'Église n'attend pas la fin du monde, non. L'Église, elle attend l'apparition de notre Seigneur qui nous prendra. Amen. Satan dira Jésus à Pierre, vous connaissez la parole, vous réclame pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, Pierre, afin que ta foi ne défaille pas. Ça, c'est une parole pour nous dans notre époque. Parce que Satan vise notre foi, mes amis. Vous le savez ? Quand Pierre a renié Jésus, j'imagine, parce que je sais que Pierre a beaucoup pleuré, j'imagine que Pierre, il est écrasé de chagrin. J'imagine que Pierre, il se sent en faillite, en échec, moins que rien. Il a déçu Jésus, très très déçu. Et le diable est venu tout de suite. Il s'est interposé comme un serpent. Afin que Pierre dise, c'est vrai, à quoi bon continuer ? À quoi bon prier, la foi qui bouge ? À quoi bon espérer ? Mais Jésus lui a dit, j'ai prié, hier, avant-hier, j'ai prié pour toi. Pas une promesse pour demain, je prierai pour vous. Non, j'ai déjà prié pour toi, pour que ta foi ne bouge pas. Quand le diable va te dire, tu n'es qu'un rien. Tu es moins que rien, Pierre. Que ta foi ne bouge pas. Que votre foi ne bouge pas, frères et sœurs. Même si vous avez des échecs, si vous êtes parfois malheureux de ce que vous avez fait, de ce que vous avez dit, bien, ne bougez pas par rapport au Seigneur. Amen. C'est un mot d'encouragement pour nous dans notre époque. Vous ne trouvez pas ? J'ai prié pour toi. Parce que la foi ne dépend pas de notre propre force. La foi ne dépend pas de nos propres prières. La foi dépend de sa prière. Et le Seigneur prie pour nous dans ce temps difficile. Et Pierre, beaucoup plus tard, il dira dans son épître, « Le Seigneur sait délivrer les hommes pieux de l'épreuve. Et le Seigneur vous délivrera. Amen. » Oui, la fin de toute chose est proche, dira Pierre. Soyez sages et sobres, n'en prenez pas trop, n'allez pas partout, ne regardez pas tout. Et puis ayez un amour ardent les uns pour les autres, un amour qui étouffe le péché, qui ne met pas d'huile sur le feu, qui dit « bon allez, on n'en parle plus, allez frère, on tourne la page », qui étouffe le péché. Parce qu'il ne faut pas que vous croyiez que l'ennemi, il est dans l'Église, il est hors de l'Église. Et notre adversaire, on a à le combattre hors de l'Église. Que Dieu nous garde en paix et dans la joie. Amen. Mais ce sera difficile. Le monde aura tellement de méchanceté. Jésus disait, l'amour se refroidira. C'est terrible ça. Un amour glacial. Je t'aime chérie d'un amour glacial. Prenons des habitudes de nous aimer. Certains chrétiens me disent « Oh, j'aime pas le mot habitude. Faut pas des habitudes. » Moi, je crois qu'il faut des habitudes. Des habitudes à bien nous aimer les uns les autres. Quand on était enfant, on nous a donné des habitudes, non ? Dis merci. Bah, qu'il faudrait encore le redire. Hein. Plie ta serviette. Jamais on vous l'a dit, jamais vous le dites à vos enfants. Lave-toi les mains avant de manger. Ferme le robinet. Range tes affaires, mouche-toi. On ne sait plus se moucher aujourd'hui. Mouche-toi, dis bonjour, dis pardon. Oh, ça c'est compliqué. Dis pardon, des habitudes. Et moi je vous donne une autre habitude si vous voulez. J'essaie de la mettre en pratique depuis des années. Priez sans cesse. Il faut de l'habitude, attention. Il faut de l'habitude. Priez quand vos pensées sont agitées. Priez dans vos souffrances, écoutez bien, dans vos péchés. Priez pour vos enfants. Priez pour la famille. Priez pour rester toujours proche de Dieu, pour que Dieu, à travers vous, fasse quelque chose que vous ne comprenez pas. Mais Dieu fait quelque chose quand on prie. Amen. Il ne faut pas que notre vie avec Jésus soit décousue. Jésus vient bientôt. Et je pense que le message de Jésus pour l'Église des temps difficiles, c'est celui-ci. Veillez et priez en tout temps. Amen. Alors nous serons prêts à t'accueillir, Seigneur. Tu frapperas la porte un jour et tu nous attireras sur les nuées du ciel. Nous partirons à ta rencontre. Des gens m'ont dit, moi je voudrais voir l'avenue de Jésus. Mais je vais vous dire un secret, mais ne le dites pas surtout. Je suis sûr que je verrai le retour de Jésus. Je suis sûr que chacun de vous aussi. Je vais même vous dire, je suis sûr qu'Adam et Ève aussi le verront. Parce que quand Jésus paraîtra, les morts ressusciteront et nous paraîtrons aussi. Et tout le monde le verra en même temps. Parce que des gens m'ont dit, ah, je suis jaloux, je voudrais voir le retour de Jésus. Vous le verrez comme moi, alléluia. Vous n'êtes pas content ? Bon. Prions le Seigneur. Amen. Merci pour ta parole, Seigneur. Pour nous approcher de toi, c'est notre bien. Et dans ce temps difficile, nous voulons rester tout proche de toi. Pour entendre plus que les vociférations et les menaces, nous voulons entendre la parole de Jésus qui nous dit « Je suis avec vous tous les jours. Ne promène pas des regards inquiets. Je viens te secourir de ma droite triomphante. » Seigneur, nous vivons des temps difficiles. Nous ne savons pas ce que demain sera. Nous savons qu'une chose, demain tu seras avec nous. Et c'est la seule consolation. Demain tu seras toujours là. Et tu nous prendras pour aller chez toi. Tiens ton Église sage, pure, fidèle, priante, vigilante, rempli d'amour. Que les terreurs de notre temps ne refroidissent pas nos cœurs. Donne-nous des cœurs simples. L'amour ne soupçonne pas le mal. L'amour se réjouit de la vérité. L'amour croit tout, espère tout. Seigneur, c'est ce que nous voulons. Amen.